Trainville PM. La voix est libre.
OK, on est en Facebook Live pour voir son air haïssable. Mon cher
mon
Luc Lavoie.
Mon cher Trainville, bonjour.
Comment est-ce qu'il va?
Il va pas pire, il va pas pire. T'as toujours peur,
non? Non. Non, aujourd'hui...
Ça te tente d'une petite bagarre?
Oui, d'une petite bagarre, peut-être.
Alors, t'es contre Hubert, nous, Bernard.
Ben, moi, je suis pas trop pro-Hubert, mais je vais te... Parce que tu vas nous parler du taxi.
Oui, je vais vous parler du taxi, mais toi, t'es anti-Hubert.
Ben, je suis pas anti-Hubert, mais je suis
pro... T'es anti-moderniste.
Tu commences. Je suis pro-taxi parce que je pense que les chauffeurs de taxi, on les a pas traités correctement dans cette histoire-là. Et moi, depuis que je suis à Montréal, puis je fais mon émission, à tous les matins, je prends un taxi. En général, je prends Coop ou je prends Hochelaga. Oui. Plus souvent qu'autrement, je prends Coop, mais Hochelaga, des fois, ils n'ont pas de taxi à m'envoyer, puis je prends Hochelaga. Puis je le fais parce que je considère que Uber, d'une certaine façon, ça a été pour eux une concurrence déloyale. Moi, dans mon esprit, là, ils ont fait face à une espèce de concurrence déloyale.
Ils étaient comme d'une faiblesse incroyable, je veux dire.
Tu veux dire, ils étaient vulnérables.
Ils étaient vulnérables, mais c'était incroyable. Tu n'étais pas capable de payer avec une carte de crédit. Tu ne savais pas quelle sorte de voiture tu allais avoir. C'était tout sale, c'était n'importe quoi. Bon. Alors, puis ils n'ont surtout pas intégré, avant l'arrivée d'Uber et de Théo, ils n'ont pas intégré les technologies modernes qui... Ça va de soi qu'il faut aller dans cette direction-là.
Comme les applications.
Puis ils ont commencé à vouloir faire valoir que leur licence de taxi avait coûté 275 000 $.
Ce qui était vrai.
Ce qui n'était pas généralement vrai.
Oh, Luc!
Au moment où ils se plaignaient de ça, les permis étaient rendus à ce niveau-là, mais ces permis-là, ils avaient été achetés à 15-20 000 il y a ben des années.
Ah oui, mais là...
Mais la valeur spéculative, là, moi, le contribuable, c'est pas de mes affaires, ça.
Mais là, d'abord, avant de répondre à cet argument-là, on va juste expliquer aux gens qui nous écoutent. La raison pour laquelle on vous parle de ça, c'est que le ministre des Transports, Bonnardel, a annoncé qu'il voulait moderniser l'industrie du taxi.
Puis mettre fin à l'approche des libéraux, le précédent gouvernement, qui était d'aller de projet pilote en projet pilote pour voir si l'émulation qui en découlerait finirait par créer un meilleur service pour la population.
C'est ça.
Et là, il dit, c'est fini le temps des projets pilotes. Son projet de loi, on ne l'a pas vu encore, mais il dit que ça va encadrer l'affaire au complet, que ça va enlever des vieilles règles qui avaient été installées là dans les années 70. Par exemple, Théo a été victime d'une de ces règles-là, qui fait que tu ne peux pas moduler ta tarification en fonction de l'offre et la demande, comme le fait Uber. Tu sais, Uber, quand t'appelles un Uber, moi, je suis un grand usager d'Uber. Une des raisons qui me motive, c'est que t'es compte. Alors, si Drainville est compte, c'est sûr que je vais le prendre. Et une des raisons pour utiliser Uber, c'est que c'est super efficace. Et Uber, il dit tout de suite, là, si tu veux un taxi maintenant, ça va coûter 1,5 fois la tarification normale. Voici le prix que ça va te coûter. Ça veut dire que l'offre est plus faible que la demande. La demande est trop forte, puis les prix montent. Alors, si Théo avait eu ça, je ne sais pas si ça les aurait sauvés, mais ça les aurait certainement aidés, puis ils n'ont pas voulu donner ça.
Mais la réglementation ne le permettait pas.
Ben oui, mais ils n'ont pas voulu leur donner. Il aurait fallu qu'elle change la réglementation.
C'est ça, exact. Alors là, on va jaser encore un peu, Luc et moi, là, mais après ça, on va prendre vos appels. Puis la question que je vais vous poser, dans le fond, c'est est-ce que l'industrie du taxi s'est amélioré au fil des 5 dernières années, à votre avis? Puis là, s'il vous plaît, chauffeur de taxi, là, venez pas pacter les lignes, là, parce que d'abord, on va le voir, on va s'en apercevoir. Oui, vous pouvez appeler, là, mais moi, c'est plus le monsieur puis la madame consommatrice, là.
Parce qu'autrefois, là, t'sais? On avait des taxis dans un état délabré. Soi-disant, ils pouvaient prendre des cartes de crédit, mais je te dis qu'il n'y avait pas un chauffeur qui était ben
chaud. Ah, mais là, ils l'ont tous.
Donc, puis les voitures m'apparaissent meilleures.
Oui, je pense que oui.
Plus propre.
Moi, j'en prends tous les matins, je te l'ai dit, là. Je vais te dire, là, oui, ça s'est amélioré. En général, les chauffeurs sont très gentils.
Très courtois,
à 4h, 5h moins quart le matin, quand je le prends, là, ils sont de bonne humeur. Bon. Ce que je déplore, là, puis là, je témoigne de mon expérience. Je réponds à la question que j'ai moi-même posée. Ce que je déplore, là, c'est le manque de confort, des fois, à l'intérieur, là, notamment les amortisseurs. Écoute, là, moi, là, dans les dernières semaines, là, qu'est-ce que tu veux avec les rues qu'on a, là?
Les nids de poules, là.
Les nids de poules, puis les surfaces qui sont glacées par endroits, puis tu pognes un trou, puis bing, bang. J'ai pris une coupe de taxi où, franchement, ça cognait dur en arrière.
Ouais.
J'étais obligé à un moment donné de me tenir après la poignée au-dessus de la fenêtre pas que ce soit mon dos qui serve d'amortisseur. Ça, j'ai pas bien apprécié.
C'est pas très, très...
Tu sais, c'est pas bien confortable. Et par ailleurs, quand ils sont arrivés les grosses tempêtes, il y a des matins, j'ai pas eu de taxi. Là, je me disais, si j'avais pris Uber, peut-être que j'aurais eu un transport.
J'aurais eu un transport.
Tu comprends? Alors, mais cela étant dit, je maintiens ma ligne. Tant et aussi longtemps que j'aurais pas le sentiment que l'industrie du taxi et les chauffeurs de taxi ont eu droit à un traitement équitable, je vais continuer à les encourager. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, souvent, les chauffeurs de taxi que je prends, moi, avec les deux compagnies que je t'ai nommées tout à l'heure, c'est des Québécois d'origine, mettons, dans certains cas, marocaine, algérienne.
Oui, beaucoup.
Beaucoup de Québécois d'origine haïtienne également. Il y en a là-dedans que ça fait pas plusieurs années qu'ils sont au Québec. Là. Ils sont arrivés récemment. Fait qu'ils n'ont pas acheté à 20 000 puis à 40 000. Ils l'ont acheté à 200 puis à 250,
non, ils sont
le
plus
permis.
Là. Ils sont plus là depuis 2-3 ans.
Mais non,
ils
mais c'est ça. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent.
Très peu d'entre eux. Mais non, il y a des personnages qui possèdent des dizaines et des dizaines de licences comme celle-là, qu'ils ont achetées à travers les années, qu'ils ont payé 25, 30, 35.
Non, mais je te parle de Québécois qui sont arrivés depuis 5 ans au Québec, oui, là, Paul.
Mais c'est, non, mais Paul, voyons, Bernard, tu m'appelles Paul. Oui, Gérard!
Tu vois ce que je viens de faire en entrevue avec Paul
Laflamme. Écoute, Gérard, ça se peut que les chauffeurs qui viennent
Paul.
Te chercher... Vas-y, mon Gérard, tu fais bien ça.
Tu te souviens de la réplique de c'était quoi? C'était Cruising Bar.
Oui.
Lâche pas, mon Gérard.
Lâche pas, mon Gérard. Ça va bien, tes affaires.
Bon, OK.
Mais je veux dire, c'est souvent des chauffeurs qui sont pas propriétaires de la licence.
Oui.
Hein?
Non, alors, ça, c'est vrai, mais il y en a qui sont propriétaires. C'était leur fonds de retraite, puis il m'a dit, ils ont perdu de l'argent. Bon, là, j'ai Jimmy qui nous appelle. Bonjour, Jimmy.
Jimmy.
Bonjour, Paul et Gérard. Ça va bien?
Très bien, très bien.
Je veux dire que je suis un utilisateur de Uber parce que j'ai à voyager internationalement,
oui.
Principalement en Europe, et j'ai l'application sur mon cellulaire. Je trouve ça absolument fantastique.
Moi aussi.
À cause de la disponibilité des voitures, la propreté des véhicules, le temps de réponse rapide, le coût déterminé avant la cueillette ou la course. Et vraiment, là, c'est un service limousine. En Europe, je voyage en Allemagne, en France, en Angleterre, et même ici à Montréal, j'utilise à l'occasion. Je trouve que c'est vraiment formidable. C'est un niveau de service qui doit être égalé pour les compagnies de services taxi locaux. Parce que un coup, vous adaptez Uber, dans mon livre à moi, vous revenez plus en arrière.
Oui, parce qu'entre autres, il y a une chose avec Uber. Moi, j'en suis un utilisateur. Pas tout le temps, ça m'arrive de prendre des taxis, mais généralement, je prends Uber. Il y a une chose avec Uber, c'est que t'as pas besoin d'interagir avec le chauffeur. Il sait où tu t'en vas, il t'amène où tu t'en vas, tu dis merci, au revoir, puis c'est tout.
T'as pas besoin d'interagir comme si c'était un avantage.
Non, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de y expliquer. Écoute, faudrait que tu comprends, on va s'en aller là.
Je pensais que tu voulais dire que c'était un problème de parler au monde.
Non, Bernard, ça c'est ton problème à toi, comprends-tu?
Ben non,
t'es pas parlable.
Ben non,
t'es pas parlable.
T'es un gars sociable, même à 5h moins quart le matin, moi je dis bonjour monsieur. Des fois j'ai les yeux dans la graisse de bine, je suis fatigué.
Mais quand j'arrive à l'autre bout, à ma destination, j'ai pas besoin de fouiller dans mes poches.
Non, ça c'est vrai.
Puis de ça. Puis en plus, ce que dit monsieur est tout à fait vrai. Moi aussi, ça donne que je voyage un peu.
Ouais.
T'arrives à Los Angeles.
Faudrait que tu voyages plus, d'ailleurs.
Tu penses que ça m'aiderait?
Faudrait que tu voyages plus.
Pourquoi, là?
Parce que ça t'ouvrirait l'esprit. Ça t'ouvrirait l'esprit.
Tous ces nouveaux. Ah, tu veux qu'on parle des pays qui sont apparus au concert des nations? Le Québec, le Kosovo d'Amérique.
Bon, Dominique, tu vois, j'ai réussi. Dominique, bonjour.
Bonjour. Première question. Êtes-vous en faveur de la fraude fiscale?
Non.
Je ne penserais pas, là.
Non.
Non, bien, c'est bien simple. Les Uber, nos chers amis, là, ça a été modernisé, ils payent des taxes et des impôts, soi-disant. Mais au début, c'était un free ride. C'est certain que les pauvres chauffeurs de taxi ne peuvent pas rivaliser avec ça. C'est comme un travail au combat, un qui a le bras attaché dans le dos, l'autre, les deux bras, c'est qui a l'avantage? Je ne suis pas chauffeur de taxi, mais par principe, je paye mes taxes, mes impôts.
C'est un très bon point, ça, Dominique. Ouais, je vous félicite.
Ils les payent maintenant, là.
Oui, mais ça a fallu le tordre le bras.
Ils ont essayé de les empêcher de rentrer.
Hein?
Combien de temps que ça a pris pour finalement les forcer?
À peu près un an et demi.
Ça a pris des
années. L'autre qui est décédé, l'ancien ministre des Transports, là, Dieu veut son âme.
M. Daou.
Il a tergiversé assez longtemps. Puis il y avait d'autres qui disaient, vous êtes contre la modernité. C'est pas contre la modernité. On veut l'égalité pour tout le monde. C'est-à-dire que si moi je paye des taxes, toi tu es en affaire contre moi, tu vas en payer toi aussi.
Ouais.
Vous savez, d'un restaurant qui, lui, il a un bénéfice quelconque, il n'a pas. Il n'a pas à payer de taxes. Il dit, c'est bien plus moderne, ce restaurant-là. Il y a des écrans géants partout. Mais c'est bien certain. L'argent qu'il paie en impôts, il met ses écrans à
taxes. Mais il en paye maintenant des taxes, monsieur. Le problème est réglé.
Maintenant, je sais. Ben, maintenant, ils en payent, oui, mais par principe, je trouve qu'ils ont rehaussé le niveau. Des gens, par exemple, des chauffeurs avant, bon, perte de crédit, c'était comme arracher une dent, là, c'était compliqué.
Non, là, c'est
maintenant, ils l'appliquent. La flotte s'est remontée. Non, non, c'est ça. L'état de la flotte générale s'est remonté un peu, mais par principe.
Il y a encore du travail.
Mais c'est là la concurrence. Concurrence, c'est bon pour le consommateur. C'est toujours bon pour le consommateur, la concurrence. Parce que c'est pas de ma faute à moi s'il y avait un nombre limité de permis de taxi. C'est ça qui faisait monter la valeur de façon artificielle. Pourquoi il n'en émettait pas plus? Pourquoi il n'en aurait pas émis plus? Pourquoi il n'y aurait
pour garder la valeur des permis, notamment.
Ben oui, mais qui décide ça, que je garde la valeur des permis? Moi, je suis un consommateur.
C'est l'industrie.
Moi, je suis un consommateur, à la base.
Ouais.
Je veux une voiture confortable qui arrive en temps avec des gens qui sont courtois et puis qui ne me compliquent pas la vie quand arrive le temps
mais
de payer.
Là, je vais te donner raison. C'est que c'est sûr que la pression de Uber a obligé les chauffeurs de taxi à améliorer leur service.
Oui.
C'est, là-dessus, tu as absolument raison.
Puis à Québec, je sais entre autres à Québec qu'ils ont une appli qui a été mise au point par les taxis là-bas et qui est à peu près aussi performante que celle de Uber.
Où tu peux voir...
Le même système.
Mais à Montréal, on pourrait avoir ça.
Ça serait utile.
Ils ont dit
que dans Théo, la seule valeur qui restait après la faillite, c'était
exactement. Un dernier appel avant d'aller à la pause. Tony, bonjour.
Tony!
Oh, Tony est parti. Bon. Permis... C'est ça, son taxi est arrivé. Permis de taxi égale fonds de pension. Plus capable d'entendre ça. Combien de personnes, ça je vous lis un auditeur, là, un texto d'auditeur, combien de personnes ont perdu leur fonds de pension parce qu'ils l'avaient investi dans Nortel, par exemple? Alors, leur permis qui est leur fonds de pension, c'est volatile, comme les fonds de pension. Bon, là, je vous trouve un peu sévère.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est des valeurs spéculatives.
C'est des pères de famille, Eric.
Mais ça ne change pas que c'est une valeur spéculative. C'est pas parce que tu es père de famille que tu peux dire que tu peux pas m'enlever ça.
Il y a du monde qui ont mis ça sur 15-20 ans, qui ont emprunté de l'argent.
Ne te fais pas trop embarquer par cette histoire-là, OK?
Fait que tu es en train de traiter de menteur, tous les bons chauffeurs de taxi qui m'embarquent matin après matin puis qui me racontent leur histoire. Mais il y en a qui ont emprunté des grosses sommes d'argent. Ils doivent être propriétaires de quelque chose.
Mais parle-leur puis demande-leur, êtes-vous propriétaire, vous, du permis?
Ils ont emprunté. Ils ne parlent pas de leur emprunt de maison, ils me parlent de leur emprunt de taxi.
Alors, ils ont été acheter une valeur spéculative puis tu viens avec une valeur spéculative.
C'est
comme les quotas de lait. Si un jour tu arrêtes la gestion de l'offre, ils ne vaudront plus rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est des valeurs
artificielles. Tu ne vas pas commencer ça?
Veux-tu quoi?
T'empruntes de l'argent en fonction de règles. Puis là, ils changent les règles. C'est toi qui es pénalisé parce que les règles ont été changées en chemin.
Le consommateur compte jamais.
Le consommateur, il compte. Il faut trouver le bon équilibre. Il faut trouver le bon équilibre là-dedans. Mettons que t'empruntes de l'argent dans une business, toi-là, en fonction de règles qui s'appliquent présentement. Mm-hmm. Puis le gouvernement, 2 ou 3 ans plus tard, il change les règles. Tu vas avoir raison de dire, hey, quand j'ai emprunté de l'argent, moi, c'est en fonction de règles X, Y, Z. Vous changez les règles en chemin. Pourquoi je paierais pour ça, moi? J'ai pris un risque en fonction d'un système.
C'est un vaste débat.
C'est un bon argument.
Mais pourquoi il n'en émettait pas plus de permis de taxi? Il n'y aurait pas eu de valeur spéculative aussi folle. Puis pourquoi les taxis se sont assis sur leur laurier, sur leur steak, comme on dit, puis qui ne se sont pas modernisés, puis qui n'ont pas trouvé les meilleures voitures, puis qui n'ont pas trouvé les moyens d'utiliser les cartes?
Là, je te dis, il faudrait qu'ils changent les amortisseurs dans certains cas, parce que ça fait trop mal au dos, là. Bon, là, après...
un dos fragile, hein, Bernard.
Va donc chez le bonhomme. Fait qu'après la pause, on va parler d'un autre sujet.
Oui, monsieur, les immigrants.
L'immigration, c'est ça, dans un instant.
Drainville PM. La voie est libre.
Procédure judiciaire à ce stade-ci, suite au dépôt d'un projet de loi qui n'a pas eu d'études détaillées et qui n'a pas été sanctionné, c'est saugrenu comme procédure et comme façon de faire.
Alors, c'est Simon-Jolin Barrette qui qualifiait de saugrenu donc cette demande d'injonction pour obliger son ministère à recommencer à traiter certains des 18 000 dossiers qu'il a annulés. Ben, il a annoncé, en tout cas, qu'il serait annulé, mais là, justement, tu as des avocats d'immigration qui veulent aller devant un tribunal puis qui disent non, tu peux pas annuler d'un coup ces 18 000-là, il faut que tu recommences à être traité. Puis toi, tu trouves que c'est une mauvaise nouvelle?
Moi, je trouve que c'est une très, très mauvaise... dans le sens où Jolin Barrette répond en disant « Saugrenu! C'est saugrenu! » Pourtant, il semble y avoir un argument valable. D'abord, commençons par le début. Il y a quelque chose de très cruel, particulièrement pour ceux qui vivent déjà au Québec. On parlait aujourd'hui à Québec avec un pâtissier.
Oui.
Il est pâtissier en plein le genre qu'on cherche dans le Québec.
Okay? Oui, oui.
Il a une job.
Oui.
Il est marié avec une Québécoise.
Oui, oui.
Il reste à Québec, il a acheté une maison,
oui.
Mais son permis de travail expire là, parce qu'il n'y a pas eu encore.
Mais là, tu sais que.
Il sac son camp.
Ben là, il peut appliquer pour ce qui s'appelle l'expérience québécoise, puis ils vont lui donner un certificat de sélection d'un 20 jours.
Oh mon Dieu, Seigneur.
Ben non, mais c'est ce que
puis
c'est.
Le système Arima, là, le système Arima.
Ben oui.
91 000 noms.
Ben oui, du monde, là, qui veulent justement
mais
venir au Québec.
Ben non, il n'y a pas d'arrimage. Il n'y a même pas de place. Vas-y sur le site. Tu peux même pas, si t'es un employeur, dire voici mes besoins. J'ai besoin de soudeur. J'ai besoin de cuisinier.
Mais là.
J'ai besoin de.
J'espère qu'ils vont l'ajuster parce que c'est ça, la nouvelle politique,
ouais.
C'est de faire venir du monde ouais. Dont on a besoin des entreprises.
Le système Arima a été mis en place en août dernier par le gouvernement libéral,
ben ouais.
Mais il est exactement comme il était en août dernier. Il n'y a pas d'arrimage avec des employeurs.
Mais là, il faut changer ça.
Les informations qu'on a, c'est que ça va prendre des mois. Alors moi, ce que j'en conclue de cet exercice-là, qui est un peu improvisé, beaucoup, merci beaucoup.
Tu parles de l'annulation des 18 000 dossiers.
Oui, exactement. Ouais. Ce que je pense de ça, là, c'est qu'ils veulent arriver à leur chiffre magique de 40 000 qui avait été cherché dans un chapeau comme ça, parce que ça faisait bien dans 40
000. 40 000 immigrants par année, tu veux
au
dire?
Au lieu de 50 000. Hein,
ils ont tu dit, penses que c'est pour ça qu'ils annulent les 18 000 dossiers?
Ce qu'ils font, c'est qu'ils gèlent le processus pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, ton 10 000 est passé. Parce que t'en souhaites 50 000 par année.
Je pense pas que c'est
moi,
ça.
Moi, je pense que c'est ça.
Puis
moi,
sérieusement, si je le pensais, je te le dirais, mais je pense que c'est pas ça. Moi, je pense que la réelle raison, c'est qu'ils veulent mettre en place le nouveau système basé sur les besoins de la main-d'œuvre. Et le ministère de l'Immigration est tellement lent dans le traitement des demandes que s'ils décidaient d'aller au bout des 18 000, il y en aurait pour 1 an, 2 ans, 3 ans, je le sais pas.
Là,
et le nouveau système basé sur les besoins de la main-d'œuvre, on le mettrait pas en place. Parce
en
qu'il faut...
remboursement pour le flochage, j'appelle ça du flochage des 18 000, ça y coûte 19 000.
Ben oui, mais lui, ben là, non, si c'est pour avoir un nouveau système d'immigration qui va être ajusté à nos besoins...
19 millions qui mettent des ressources, qui prennent le 19 millions et qui mettent des ressources, franchement, là, ou au moins, ils pourraient couper la poire en deux et dire ceux qui sont en territoire québécois, maintenant, on les traite comme on
Mais c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai encore des discussions avec le cabinet de Jolin Barrette il y a une couple de jours. Ils m'ont dit, si tu es au Québec... Puis tu parles français, puis tu as une job, tu peux faire application pour le programme, il l'appelle Expérience Québec. Puis si tu te qualifies, il y en a qui le connaissent, il y en a qui appliquent.
Ouais.
Puis ils ont droit à le certificat de sélection, donc à leur résidence permanente, ils peuvent rester, c'est quoi, c'est 20 jours, 21
t'es
jours de traitement.
Toi qui as flushé 18 000, c'est ça que tu dis?
Je vais te dire.
C'est j'aime ton tendresse
qui s'envole. J'aime pas tellement le fait qu'on soit obligé de passer par là. Mais je me pose sincèrement la question, Luc, si c'est pas le prix à payer. Je sais que c'est un prix humain considérable, mais je me demande si c'est pas le prix à payer pour avoir un nouveau système qu'on va mettre en place puis qui va fonctionner. Parce qu'actuellement, puis c'est pas moi qui le disais, la vérificatrice générale a produit un rapport il y a quoi, 2 ou 3 ans, pour dire les gens qu'on fait venir, là, dont on a besoin, on fait pas venir les bons.
On fait pas venir les bons.
C'est fort
probable qu'on fait pas venir les bons.
Parce qu'ils sont pas ajustés aux besoins de notre main-d'œuvre.
Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de traiter les dossiers qui sont là? Pourquoi on peut pas les traiter? D'ailleurs, c'est pas mieux à Ottawa, là. Les réfugiés, ça prend 4 ans, puis 5 ans, puis 3 ans, puis ainsi de suite avant qu'on décide.
Ceux qui sont arrivés par le chemin Roxane, il y en a que ça prend jusqu'à 5 ans là, pour décider si c'est des vrais réfugiés
Alors,
ou pas.
Alors, comment ça se fait que nos machines étatiques sont plus capables de traiter ça? C'est pas si compliqué que ça. Ben, c'est pas la fin du monde.
Moi, je vais te dire...
T'as un dossier, tu vérifies, oui, est-ce qu'il a répondu aux bonnes questions? Oui, peut-être qu'on devrait faire une vérification de sécurité. Oui, on fait une vérification de sécurité. Comment ça se fait que ça pas capable de livrer. Qu'est-ce qu'ils font à part que faire des meetings?
Les bureaucraties sont pas bien ben efficaces.
Ah, Bernard! Mesdames et messieurs, y aurait-tu moyen, Larry, que tu fasses un ding-ding, quelque chose? Bernard vient de dire les bureaucraties sont
pas
bien
efficaces. Je le reconnais.
C'est la première fois que tu
le
reconnais,
Non, c'est pas
Bernard.
Vrai que c'est pas la première, c'est pas la première fois.
En tout cas, c'est la première fois que tu le reconnais. T'avais peur.
Non, c'est
que
parce
tes
que
amis,
toi, ton maudit...
peur que tes amis...
Toi, ton maudit problème, c'est que t'es contre tout ce qui est public. Moi, je suis pour ce qui est public, mais je souhaite que ce soit plus efficace.
Eh, hey, monsieur!
Oui, mon ami!
Tu rêves, t'es un pelleteux de nuages, t'as pas lâché, hein?
Non, j'ai pas lâché.
Ah, monsieur!
Non, moi, je crois à ça. Je crois à ça, moi, le service public puis la fonction publique. Mais je reconnais, par exemple, qu'ils ont des maudits problèmes d'inefficacité.
Et pourrais-tu livrer?
Il faut qu'ils travaillent mieux.
Ben, moi, je pense qu'il faut le botter le cul puis il faut mettre...
C'est ça. Toi, là, c'est la vieille manière de mon oncle des années 40. On va lui botter le derrière, puis ils vont finir par 40, comprendre. Là, une taloche par la 40, tête. Tiens-toi, la méthode de la voix.
C'est Godbout, puis après ça, c'est Duplessis qui est arrivé. Puis là, je pense que Duplessis, comprends-tu, il est de retour au pouvoir à Québec. C'est ça qu'on est en train de vivre.
Aussitôt que t'es démagogue.
Ah, ben, c'est peut-être.
Duplessis de retour. La joke facile, toi. La ligne facile. La grosse facile. La voix. La grosse facilité aujourd'hui.
Duplessis est de retour. Avec Titoine Rivard, puis toute l'affaire. Ils sont tous là. Ils sont de retour.
Tu te rappelles la réplique? Toi, tais-toi, la voix.
La meilleure, c'était pas celle-là. C'est quand son ministre qui était chargé de la culture, mais ça s'appelait pas ministre de la culture, un certain M. Bruchesi, et que Duplessis était pas capable de voir en portrait. À un moment donné, Bruchesi arrive voir Duplessis. Il était dans un petit groupe, un cocktail. Il dit, « Monsieur le premier ministre, j'arrive d'Italie. » Puis il dit, J'ai vu des gens qui ont le même nom que moi, mais il dit, il prononce ça Bruchesi. Duplessis, il dit Bruchesi, Vauquier.
Oui, j'en connais un autre qui est pas mal. Il y avait un Monseigneur, Bruchesi.
Oui, ben oui.
Bruchesi, il me fait quier. Bon, on s'arrête, là. OK, puis au retour, on va parler des problèmes de GPS.
Mais j'ai pris une note, là, Bernard a dit que les bureaucraties sont inefficaces.
Ben, des fois, ils sont. Je le reconnais. Je suis pas boqué, moi, comme toi, capable de reconnaître à un moment donné le point de vue de l'autre.
Non, moi, je suis incapable. Il y a des affaires, tout je ne sais pas, là. La fonction publique, puis la gang de têteux qui font des meetings, puis qui se font des patentes, puis qui avec leur petit syndicat, puis leur 20% d'absentéisme. C'est ça qui est en train de paralyser le Québec, puis il faut.
T'es-tu GPS, toi?
Oui, monsieur.
T'es GPS?
Oui, monsieur.
Ça t'arrive-tu que le GPS se trompe et t'amène dans le champ?
Oui, c'est arrivé, oui.
Bon, mais c'est de ça dont on va parler. Mais pour ça, il faut que tu t'en ailles.
OK, je sac mon camp. Tout de suite, Bernard. Sac ton camp. Ça me fait plaisir, d'ailleurs, je suis tanné de te parler.
Sac ton camp.
Bye.
Sac ton camp. Bye.